Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du colloque pour avoir accepté en fait une communication qui ne porte pas sur la Normandie, mais sur l'Anjou. Alors, certes, on sait que des liens forts existent entre l'Anjou et la Normandie, des liens religieux, puisque par exemple Saint-Florent de Saumur a de nombreux prieurés en Normandie, et puis des liens également politiques, puisqu'Anjou et Normandie sont dans le même ensemble politique à compter du XIIe siècle. Voilà, donc, mais je suis malgré tout, donc je travaille malgré tout sur un corpus angevin. Alors, dès 1987, Jean-Luc Chassel indiquait que le cartulaire de l'abbaye bénédictine Saint-Aubin d'Angers était le premier recueil connu proposant un dessin de sceau. Il soulignait également la rareté de ses reproductions dans les cartulaires, contemporains pour certains du succès progressif du sceau dans la société, pour d'autres d'une pratique de validation devenue tout à la fois banale et incontournable au sein des élites. Cette indifférence apparente au sceau était en outre concomitante d'une réflexion sur l'image conduite, par exemple, au XIIe siècle à Poitiers, dans une cité toute proche de l'Anjou. Ce paradoxe intrigue. Et je voudrais reprendre l'enquête circonscrite au Val-de-Loire, centrée sur le fonds d'archives de Saint-Aubin d'Angers, et intégrée en fait dans une réflexion sur l'art de la transcription et sur sa signification. Alors, avant de montrer la rareté des reproductions donc de sceaux dans le cartulaire et d'essayer de la comprendre, eh bien, je tenterai de faire une pesée des actes scellés dans le fond de Saint-Aubin, de mesurer le rythme d'intégration de ces documents dans le chartrier abbatial pour déterminer à quel moment l'acte scellé d'exceptionnel devient habituel, évolution qui modifie peut-être le regard porté par les moines et par ceux qui sont responsables essentiellement du scriptorium sur les titres pourvus de sceaux. Donc, alors qu'au Moyen-Âge, et on le sait tous, l'usage du sceau comme moyen de validation des actes était l'apanage des souverains, il est adopté par quelques évêques avant 1050, par des princes territoriaux après cette date. Puis au XIIe siècle, les abbés, certains chapitres cathédraux, les seigneurs laïcs en détiennent aussi, et le mouvement de vulgarisation se poursuit au cours du XIIIe siècle. Cette chronologie bien établie depuis les travaux de Robert-Henri Bautier, de Jean-Luc Chassel également, connaît des variations locales toutefois. Dans le Val-de-Loire, les évêques n'emploient de sceaux de validation qu'à partir du second XIe siècle. L'évêque d'Angers, Eusèbe Brunon, l'un des grands évêques de cette période, qui est peut-être d'origine lotharingienne, scelle un acte en 1076, on le sait avec certitude. Les princes territoriaux en usent seulement à compter de la fin du XIe siècle, d'abord de façon tout à fait occasionnelle, puis régulière. Et on sait que le comte d'Anjou, Foulque IV, dit le Réchin, emploie un sceau dès 1085. Le fonds d'archives de Saint-Aubin d'Angers témoigne de cette lente percée du sceau. Alors, il ne permet guère de reconstituer le chartrier des XIe et XIIe siècles, mais il permet d'en apprécier l'ampleur et d'en esquisser finalement une configuration assez évolutive. Donc, je suis partie des titres originaux. On possède 129 titres originaux ou copies médiévales. J'ai intégré les copies médiévales dans les originaux. Et il s'agit majoritairement d'actes simples, reçus comme authentiques et sincères pour 111 d'entre eux. Ce sont ces actes qui sont vraiment le support de mon étude, et établis le plus souvent, comme on peut le voir sur le tableau, après 1100. Donc 95 sur 111 ont été dressés après 1100. 14 de ces titres sont des pancartes. Ces dernières ne sont jamais scellées, à la différence de ce qu'on peut observer justement en Normandie. Elles ne sont pas non plus d'ailleurs validées par une autorité quelconque, que ce soit un évêque ou le comte pour l'Anjou. En revanche, les actes simples donc, le sont ou l'ont été pour 45 d'entre eux, soit au moment de leur établissement, soit ultérieurement. Et leur répartition chronologique, quand on l'observe sur le tableau, est tout à fait sans surprise. Je mets de côté les bulles. Donc les premiers titres scellés apparaissent au début du XIIe siècle, mais en fait dans la belle série, on a presque une trentaine d'actes à ce moment-là, dans la belle série des années 1100-1120, on n'a que trois titres scellés, deux en réalité, parce que dedans il y a une bulle effectivement qu'il faut mettre un petit peu à part, et les deux premiers titres scellés datent de 1103 et 1104, donc une apparition à peu près au même moment. Comme on le voit sur le tableau, après 1150, donc, le nombre des actes scellés augmente considérablement, ainsi que leur proportion. Entre 1100 et 1149, un acte sur quatre comporte une annonce ou une trace de scellement, voire les deux à la fois. Entre 1150 et 1199, 1 sur 2. Et la tendance s'accentue après 1200, avec 11 pièces scellées sur 12 qui ont été répertoriées. J'ai arrêté mon enquête en 1220, puisqu'après, les actes changent considérablement. Donc j'ai essayé d'avoir un corpus relativement homogène pour faire mener cette investigation. Donc assurément, le recours aux sceaux s'affirme tout au long du XIIe siècle. Pour autant, ce recours aux sceaux ne signe pas le glas des autres modes de validation. Au XIIe siècle, nombre de titres sont validés encore par des croix, qui sont des croix autographes ou non. Certains conjoignent validation par le sceau et par la croix. D'autres, par la devise chirographaire, on voit bien la devise qui est ici à l'envers, donc chirographum, hein, tout simplement. D'autres, par la devise chirographaire et par la croix. Alors, l'acte n'est pas très très beau, mais bon, il apporte de multiples informations. D'autres encore par la devise et par le sceau. Cet acte est attaché dans un registre, mais on voit bien l'incision donc pour le passage de l'attache du sceau. Alors cette dernière association entre sceau et devise est assez fréquente dans le fonds de Saint-Aubin après 1157, et elle est utilisée notamment par l'un des abbés de Saint-Aubin d'Angers, Guillaume, qui est un des grands abbés de la période. Elle ne disparaît pas au XIIIe siècle, et elle concerne finalement autant les chartes que les notices. L'usage du sceau, à compter essentiellement donc du XIIe siècle, a un impact sensible sur les clauses de l'escatocolle. Au XIe siècle, prévaut l'annonce des témoins, des signats et des croix, et les premiers titres scellés connus n'intègrent pas justement une annonce de sceau. Il faut attendre en fait 1138 pour qu'un original mentionne dans l'escatocolle ce mode de validation. La date est encore plus tardive pour les chirographes scellés. La première mention à la fois du scellement de l'acte et de la devise chirographaire bien, date de 1168 seulement. Et puis progressivement, des formules convenues reviennent d'un titre à l'autre, soulignant en fait la fréquence du recours au sceau et son caractère désormais plus régulier. Par ailleurs, à compter de 1150 essentiellement, certains titres sont dotés de plusieurs sceaux, mais la pratique du double, du triple, du quadruple scellement reste ponctuelle avant 1190, puis elle se répand. Alors j'ai oublié de vous montrer donc ces annonces de sceaux hein, que l'on rencontre. Donc là, pour la première, il s'agit d'une annonce tout à fait classique hein, dans cette région. C'est une charte de Passavant, donc de 1138. On a Presentes, Litera, Civili, Mei, Munimine, Roboraoui. Donc on retrouve ce type d'annonce dans de nombreuses chartes de cette époque. Et puis en dessous, donc, une autre annonce qui effectivement conjoint l'annonce du chirographe, facto chirographo, et des sceaux. Alors là, deux sceaux. Il s'agit donc d'un chirographe. Donc on a, à l'issue donc, de la découpe du parchemin, deux parties de chirographe. Et il s'agit d'une charte d'Emma Abbesse de Notre-Dame de la Charité. Je crois qu'hier, nous avons vu effectivement un sceau d'Emma lors d'une des présentations. Donc la charte date de 1168. Et si Saint-Aubin détient effectivement cette charte, elle a un exemplaire du chirographe, comme il se doit, à l'issue donc du rituel des validations. Donc voilà pour les annonces de sceaux. Alors, donc je disais que la pratique du multicellement se développe essentiellement après 1190. Effectivement, sur les 10 cas recensés avec certitude dans le fonds de Saint-Aubin, 6 datent des années 1190-1216. Et l'apparition de ces pièces validées par plusieurs sceaux vient traduit sans conteste un phénomène par ailleurs bien connu, l'augmentation sensible du nombre des sigillants et leur diversification sociale dès le XIIe siècle. Et la liste que j'ai dressée donc, le montre à l'envi. Si l'on excepte là encore les actes pontificaux que j'ai malgré tout intégrés dans mon tableau, eh bien, le premier sigillant attesté l'est dès 1104, et il s'agit de l'archevêque de Tours, Raoul, qui prononce un jugement en faveur de Saint-Aubin. Il est rejoint dès 1138 par un seigneur laïc, Samson de Passavant, dont je vous ai donné tout à l'heure l'annonce dans sa charte. Puis en 1144, alors c'est une date qui peut apparaître tardive, par un des comtes d'Anjou, Geoffroy. Et puis après 1150, eh bien, le groupe des sigillants s'étoffe aux évêques, alors ceux d'Angers, du Mans, de Nantes également, s'ajoutent les abbés de Saint-Aubin, de Saint-Serge d'Angers, de Sainte-Marie du Halay, mais aussi le chapitre cathédral de Tours, les chapitres, enfin les convents des monastères de Saint-Aubin, de Notre-Dame du Ronceret, de Fontevraud également. Les seigneurs laïcs sont aussi beaucoup plus nombreux à détenir un sceau. Je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais on peut citer Robert de Sablé, Philippe de Ramefort, Hubert de Champagne, qui sont des seigneurs laïcs assez importants dans l'Anjou au XIIe siècle et qui détiennent un sceau avant 1200. On trouve également le sénéchal d'Angers, qui détient un sceau dans les années 1157-1189. Là, l'acte est daté par l'abbatiat de Guillaume, mais pas de façon très précise. Et puis ce que l'on observe, c'est que la diffusion effectivement du sceau dans la société se poursuit après 1200, puisqu'aux catégories sociales évoquées et aux institutions donc, que j'ai mentionnées précédemment, eh bien, s'ajoute par exemple le prévôt d'Angers dès 1206. Des emprunts de sceau sont également attestés essentiellement dans la seconde moitié du XIIe siècle. On n'a par contre pas de sceau villageois ou sceau paysan, hein, tout dépend du vocabulaire que l'on utilise. Alors, l'examen des copies modernes, puisqu'on a conservé un certain nombre de copies modernes pour ce fonds, permet d'affiner quelque peu la chronologie. Donc, le premier sceau épiscopal, en fait, qui a été détenu par l'abbaye, enfin, tel qu'on le connaît au travers de ces copies modernes, eh bien, apparaît dès 1097. Donc, cela permet malgré tout de remonter plus avant. Il s'agit de celui de Marbode, évêque de Rennes, qui a été archidiacre et écolâtre à Saint-Maurice d'Angers, donc à l'église cathédrale, et qui est un grand lettré de cette période, qui joue un rôle considérable dans l'Anjou de la fin du XIe siècle et du début du XIIe siècle, d'autant plus qu'il garde un certain nombre de responsabilités en Anjou. Donc, pour faire vite, on peut voir que le sceau épiscopal des diocèses d'Angers, de Rennes, de Nantes, de Poitiers et du Mans, pas de diocèse normand, eh bien, est présent continuellement dans le chartrier de l'abbaye à partir de la fin du XIe siècle, d'abord de façon relativement discrète, puis ensuite de façon affirmée à compter de 1105. Avant 1100, les deux titres scellés, connus à la fois par des copies modernes et par des originaux, eh bien, avant 1100, eh bien, ces deux titres scellés datent de 1097 1098 sont d'origine épiscopale. Entre 1100 et 1149, je vous donne le deuxième tableau, je n'ai pas fait apparaître, on a 5 titres scellés qui ont été recensés à la fois par l'enquête sur les originaux et par l'enquête menée sur les copies modernes. Et ces 5 titres scellés sont porteurs de 9 sceaux qui correspondent à 7 sigillants distincts et à 5 catégories donc, sociales ou institutions différentes. Et au-delà donc de 1150 et jusqu'en 1199-1200, les 40 titres scellés répertoriés proposent 45 sceaux renvoyant à 32 sigillants, appartenant donc à 11 catégories sociales ou institutionnelles. Et lorsqu'on mène un petit peu l'enquête au-delà de 1200, eh bien on s'aperçoit que le mouvement d'accélération se poursuit entre 1200 et 1220. La gamme des sigillants s'étoffe, s'élargit, la liste s'allonge. Donc, malgré tout, les évêques et les abbés constituent le gros bataillon des sigillants, suivi de près par les chapitres et talonné par les seigneurs laïcs. Par conséquent, le fonds de Saint-Aubin constitue une belle illustration de l'adoption du sceau par les différents établissements religieux et par les élites sociales. L'abbé de Saint-Aubin emploie un sceau dès 1123, mais surtout après 1150. Or, dans les recueils de transcription, les dessins de sceaux sont particulièrement rares et les indications de scellement tout à fait exceptionnelles. Alors, ce constat n'est pas nouveau. Il n'est pas propre à l'espace ligérien. Mais le cartulaire de Saint-Aubin, et le cartulaire de Saint-Aubin, qui est riche malgré tout de 129 feuillets, donc c'est un gros cartulaire, eh bien n'y échappe pas. Alors, quelques mots sur ce recueil, pour comprendre peut-être aussi la surprise qu'on a à trouver peu de dessins de sceaux dans ce codex. C'est un recueil qui a été mis en chantier sans doute en 1087, sous l'abbatiat donc de Girard, qui est à la tête de l'abbaye jusqu'en 1106. Dès 1104-1105, la majorité des transcriptions ont été effectuées par deux mains distinctes. Une main A, qui est à l'origine en fait de 53% des transcriptions. Elle a copié 207 unités et elle les a copiées entre 1087 et 1089-1095, donc une période assez courte. Et puis la main B, qui est à l'origine de 28% des transcriptions, donc un petit peu moins de 110 unités, qui a travaillé au plus tard jusqu'en janvier 1105. Alors les deux mains ont peut-être travaillé en parallèle, je le soupçonne, mais je n'en ai pas véritablement de certitude. Quant aux 73 autres titres qui se trouvent actuellement dans le cartulaire manuscrit, puisqu'on l'a conservé, il se trouve à la bibliothèque municipale d'Angers, eh bien ces 73 autres titres ont été copiés entre 1105 et 1174-1189 par une douzaine de mains distinctes, dont 6 travaillent assurément après 1150, au moment où il y a un renouveau d'intérêt pour le cartulaire. Et 52 de ces titres copiés ultérieurement sont postérieurs à 1106. Ça signifie que quelques titres antérieurs à 1106 ont malgré tout été copiés par la suite, après la mort de l'abbé Girard. Les pièces copiées dans ce cartulaire sont très majoritairement des notices, puisqu'on a 317 notices copiées pour un petit peu moins de 400 documents au total. Ce codex résulte en fait d'une vaste entreprise de compilation très réfléchie. Il est divisé, alors très rapidement, c'est pour justement étayer ma démonstration, il est divisé donc en 34 chapitres, organisés en sections hiérarchiques et topographiques, donc en tête les sections hiérarchiques et ensuite les sections topographiques. Il réunit à son origine des pièces intéressant seulement les dépendances angevines du monastère, est daté pour la plus ancienne de 769, un diplôme donc de Charlemagne. Il est le fruit d'un véritable projet éditorial que les mains A et B ont suivi et respecté scrupuleusement tout au long de leur travail. Chaque dossier porte un titre courant et chaque dossier également débute par une table des rubriques numérotées et observe en fait le même système de repérage visuel des copies. Donc chaque unité documentaire est ouverte par une lettrine. Chaque copie est également précédée d'une rubrique plus ou moins longue, assez courte pour la main A, beaucoup plus développée pour la main B. Et donc cette rubrique est accompagnée en rouge du numéro d'ordre qui est porté par la même main que celle qui écrit les rubriques qui ouvrent les chapitres. Donc on a là un cartulaire relativement bien soigné. Puis je vous ai mis effectivement une devise de chirographe par ailleurs qui était reproduite, j'y reviendrai. Les pages sont divisées en deux colonnes, de largeur comparable d'un folio à l'autre, donc il y a un vrai travail de préparation assez uniforme des parchemins, et chaque page a un nombre similaire de rectrices. Par ailleurs, ce cartulaire, et c'est une de ses spécificités, regorge de signes graphiques, des monogrammes, alors quelques exemples, donc des monogrammes, des invocations symboliques, je vous en montrerai tout à l'heure, des ruches de notaire, des croix de validation. Là, il s'agit de croix de validation sans doute tracées par la main, oui, assurément tracées par la main B, puisque chacun trace à sa manière ses croix de validation, des signats d'auteur, des signats de tiers ou de scribe, des devises, donc chirographaires également. On en a un exemple ici, le même tout à l'heure, que celui tout à l'heure, je crois, ou un autre, je ne sais plus. En revanche, très peu de dessins de sceaux. Alors, la rareté des dessins sigillaires tient pour partie à la date de réalisation du cartulaire, qui est essentiellement en fait une œuvre du XIe siècle, complétée ponctuellement au XIIe siècle. Or, on a vu l'emploi du sceau, finalement, ne devient soutenu que lorsque l'entreprise de copie en direction du cartulaire se ralentit considérablement. De sorte que les originaux scellés datés du XIe siècle, de cette extrême fin du XIe siècle, que les originaux scellés datés du XIIe siècle n'y ont guère été transcrits. Cependant, on a quelques actes scellés qui ont été copiés dans ce cartulaire. Une charte de Raoul, archevêque de Tours, datée de 1104, qui a été portée dans un dossier topographique, celui du prieuré de Prunier, qui est une dépendance à l'ouest d'Angers, enfin maintenant intégrée à l'agglomération, et qui a également été transcrite sur une pancarte, vraisemblablement quelques mois après que cet acte ait été donné en faveur de Saint-Aubin d'Angers. Et il faut savoir que le scribe qui transcrit, donc la main B en l'occurrence, qui transcrit cette charte dans le cartulaire, est aussi celui qui l'a copiée sur la pancarte. D'ailleurs, cette pancarte est entièrement de la main du scribe B du cartulaire. C'est assuré. Enfin, j'ai pu le déterminer de façon certaine. Aucune des deux transcriptions ne reproduit le sceau plaqué qui l'a validé. Donc vous avez au bas de la pancarte, c'est une très grande pièce qui fait à peu près 600 mm de haut et 500 de largeur, donc vraiment une très très belle pièce. Donc on a au-dessus, et j'en reparlerai, on voit les signes de validation donc, du diplôme de 769 de Charlemagne. Donc vous voyez les signes de validation de ce diplôme de Charlemagne. Et puis en dessous, la charte de Raoul, le Radulfus, on voit sans doute, donc apparaît bien. Mais le sceau plaqué n'a pas été reporté effectivement sur cette pancarte. Et le constat étonne effectivement, puisque l'acte archiépiscopal, dressé à l'issue d'un plaid, qui était présidé par l'archevêque de Tours, assisté en fait de l'évêque d'Angers, en présence des différents plaignants, eh bien confirme la sincérité du diplôme de Charlemagne de 769, celui qui a été copié juste au-dessus donc de la charte de Raoul sur la pancarte. Et ce diplôme de Charlemagne avait été utilisé donc en 1098 lors d'une procédure judiciaire utilisée par les moines albiniens pour prouver justement leur droit sur, alors non pas la totalité de la dépendance de Prunier, mais sur la forêt, un espace boisé donc qui dépendait de ce prieuré. Et il avait été contesté par les opposants aux moines albiniens, sur ceux de Saint-Nicolas de Tours. Et donc sur les deux supports, au cartulaire comme sur la pancarte, eh bien, l'acte de l'archevêque de Tours est précédé systématiquement donc du diplôme carolingien, de la copie de ce diplôme, bien évidemment. Et donc on peut penser, alors peut-être que c'est une logique très contemporaine, mais on aurait pu penser que la reproduction du sceau de Raoul aurait fait écho à celle du diplôme carolingien, créant ainsi visuellement un lien entre les deux actes d'autorité et conférant en fait au dossier une force supplémentaire. J'ajoute que cette pancarte a sans doute été réalisée aussi pour convaincre les comtes d'Anjou d'abandonner totalement leur droit sur cette forêt contestée et de cesser de soutenir les adversaires de Saint-Aubin. donc utilisé vraisemblablement aussi peut-être dans une vraiment une procédure de négociation, qui n'est pas forcément une procédure judiciaire, mais en tout cas une procédure de négociation. Alors, outre la charte de 1104, on a aussi une notice de 1146 qui annonce un scellement par 4 sceaux copiés dans le cartulaire. Et sa copie, qui a été effectuée avec soin par une main additionnelle au XIIe siècle, ne comporte aucun dessin des empreintes sigillaires. De même, pour une notice de 1112, copiée dans la seconde moitié du XIIe siècle, on ne constate aucun dessin sigillaire. Le travail est méticuleux, mais ni les croix annoncées par le titre, ni le sceau, dont la tache est encore visible sur l'original, ne sont dessinés. Et de la même manière, dernier exemple, une charte scellée datée de 1138, c'est la charte de Samson de Passavant que j'ai citée tout à l'heure, qui a été transcrite, alors c'est l'un des seuls documents transcrits à cette époque, transcrite au tout début du XIIIe siècle et privée du dessin du sceau seigneurial. Alors par ailleurs, mais ce n'est qu'une simple supposition, il n'est pas impossible que la charte d'Eusèbe Brunon, donc l'évêque d'Angers hein, qui détient un sceau à compter de 1076 assurément, qu'une charte d'Eusèbe Brunon qui a été copiée dans le dossier des évêques, et une charte qui date justement de 1076, il n'est pas impossible qu'elle ait été scellée, même si la transcription dans ce dossier des actes épiscopaux n'en fait pas état. L'acte est très important pour l'abbaye. Il est donc de la même année que le premier acte qui atteste l'usage de sceaux par cet évêque et qui est conservé en original dans le fond de l'abbaye de Marmoutier, qui est pourvu de 3 sceaux plaqués, le sceau de Raoul, encore lui archevêque de Tours, le sceau de Zèbe Brunon, évêque d'Angers, et celui de Sylvestre, évêque de Rennes. Ce qu'il faut noter par ailleurs, c'est que lors de la transcription des 4 documents cités qui étaient scellés, les moines de Saint-Aubin ont fait le choix de ne pas mentionner la devise sigillaire, alors qu'il rapporte la légende des chirographes. Par ailleurs, les auteurs des rubriques, on a systématiquement des rubriques pour les actes copiés par les mains A et B, les auteurs des rubriques n'ont fourni aucune information sur le scellement de ces actes ou sur celui d'autres pièces, hein, copiées dans le recueil que je ne pourrais pas identifier parce qu'on n'a pas conservé, qui auraient été scellées, mais dont on n'a pas conservé les originaux. Et contrairement donc aux moines de Saint-Florent de Saumur, eh bien, ceux de Saint-Aubin n'emploient pas dans les rubriques une expression que l'on trouve par exemple dans le cartulaire rouge de Saint-Florent de Saumur, qui est l'expression carta sigillata, qui revient assez fréquemment dans ce cartulaire. Alors, c'est un cartulaire du XIIIe siècle, plus tardif, ce qui explique peut-être cette indication, mais bon, je n'ai pas pu voir en totalité le cartulaire, donc je manque un petit peu d'informations. Par ailleurs, il faut voir que les moines de Saint-Aubin ne substituent pas à carta dans la rubrique le mot sigillum pour désigner donc une charte scellée quand ils analysent cette pièce. Enfin, aucune main contemporaine ou postérieure à la confection du codex n'a indiqué en marge ou en fin de copie la présence d'un sceau sur le document d'origine. Et à l'opposé, toujours dans l'espace ligérien, dans le cartulaire de Saint-Lô d'Angers, un scribe a noté scrupuleusement la détention par les chanoines du sceau dans une formule qui revient de façon assez fréquente et qui est la suivante, Inde sigillum abet ecclesia. Et de temps en temps, lorsqu'il s'agit d'un chirographe, on a la même formule, Inde chirographum abet ecclesia. Et lorsque le chirographe est scellé, il y a aussi mention donc du sceau. Donc, alors que les copistes assistent à la diffusion du sceau, ils sont peu enclins, en fait, à le reproduire à Saint-Aubin d'Angers, tout au moins. Alors qu'ils transfèrent avec minutie et souvent fidélité les devises des chirographes, ils ne le font pas pour les sceaux. Et donc, le contraste est saisissant entre le succès social du scellage des titres et la rareté des reproductions de sceaux en copie, entre la profusion des signes graphiques dans les cartulaires, j'en ai comptabilisé presque 300 ou plus de 300, je ne sais plus, enfin, c'est autour de ce chiffre, ce chiffre qu'on aboutit, et la présence timide du dessin sigillaire dans le recueil. Donc, image du sigillant, un signe identitaire, on le sait, bien le sceau est le grand absent du cartulaire, mais aussi des pancartes, on en a plus d'une douzaine à Saint-Aubin de ces pancartes, également des rouleaux dont on a conservé simplement quelques vestiges. Alors cette absence suscite l'étonnement et conduit en fait à déplacer l'investigation donc menée sur les sceaux vers le processus de transcription et vers la signification donc et sa signification. Alors lors de la transcription de leurs archives, les scribes sont confrontés à des titres variés formellement. Par la taille, le format, l'écriture, système d'abréviation, système de ponctuation, la présence ou non de signes graphiques, de scellement, toutes ces différences constituent donc autant de facteurs de diversité. Ces professionnels de l'écrit, et j'insiste, sont avant tout des professionnels de l'écrit, sont contraints de faire des choix techniques effaçant partiellement cette pluralité formelle lors de ce travail de transcription. Ils peuvent toutefois décider de conserver certaines particularités des actes. Donc, selon moi, ne pas dessiner les sceaux résulte d'une décision réfléchie. Alors, pour rendre compte de cette option, plusieurs explications peuvent être avancées. La première consiste à prendre en compte la difficulté d'un tel travail. Reproduire un sceau nécessite effectivement des compétences graphiques supérieures à celles requises pour tracer une croix ou dessiner un monogramme. Il s'agit alors de représenter un individu, un animal, éventuellement un objet, et non pas d'écrire de simples lettres. Mais dans le scriptorium de Saint-Aubin travaillent en fait des moines tout à fait capables de réaliser, et on le voit par le biais d'autres manuscrits, je vais vous en montrer, de belles lettrines, alors c'était ce que j'avais commencé à montrer tout à l'heure, de belles lettrines ornées de personnages et d'animaux. Et on a profusion de manuscrits datés des XIe et XIIe siècles qui témoignent à merveille de cette capacité à dessiner. Alors, c'est un premier exemple. Et voilà, ça fera peut-être penser à certains... Justement, là, il y a quand même des liens avec certaines abbayes normandes. Des liens qui ont déjà été mis en évidence. Ce n'est pas moi qui les ai découverts. Donc on voit qu'il y a un personnel capable effectivement de dessiner, et s'il y avait eu cette volonté de dessiner les sceaux, eh bien vraisemblablement on aurait eu recours à ces individus. Et puis il faut noter que le cartulaire également bien témoigne de cette aptitude à dessiner, puisque, alors c'est moins beau, mais quand même, on a un certain nombre d'invocations symboliques, de chrismes, qui sont effectuées de façon méticuleuse, essentiellement, essentiellement, mais c'était une erreur de ma part. Et ces invocations symboliques, affichent une maîtrise incontestable de l'art de dessiner, en tout cas de transférer d'un support à l'autre certains éléments graphiques. Et ces invocations symboliques sont assez nombreuses, on en a 25, et elles ne sont absolument pas stéréotypées. Donc ça signifie bien là qu'il y a transfin. En plus, j'ai pu comparer avec d'autres documents et d'autres supports, comme des pancartes, on a un transfert très très fidèle de ces invocations symboliques. De plus, l'utilisateur finalement d'un cartulaire n'attend pas un dessin aux qualités graphiques incontestables. Et les sceaux reproduits dans un autre cartulaire ligérien, qui est le cartulaire de Saint-Maur-sur-Loire, c'est un cartulaire qui a été réalisé ultérieurement, vers 1130-1150, le sont, comme vous pouvez le constater, de façon bien maladroite. Qu'il s'agisse en fait des sceaux équestres, sceaux des comtes d'Anjou ou de ceux des évêques de Poitiers. Et il y a également un sceau de Charles le Chauve. Donc, un dessin presque enfantin. Enfin, ces dessins, malgré tout, même médiocres, ils sont les témoins des sceaux, de ces signes de validation et de leur légende. Donc, cette première explication, selon moi, est à écarter. Il reste malgré tout que la mise en œuvre de ces compétences graphiques aurait généré un alourdissement du travail de transcription. Encore limité pour les titres du XIe siècle, où les scellements sont peu fréquents, plus net pour ceux du XIIe siècle, quand les sceaux deviennent effectivement plus nombreux dans le chartrier de l'abbaye. Cette charge complémentaire pour le scriptorium aurait néanmoins été modérée, car un faible nombre des unités documentaires qui ont été transcrites dans le cartulaire était scellé. De plus, les cartulariistes auraient pu proposer des dessins simplifiés, très schématiques, comme le fit le cartulariiste de l'abbaye de Bonnefoy au XIIIe siècle, où on a presque 50 dessins de sceaux. Alors, une autre explication peut être envisagée. La nouveauté du sceau, et je ne pense pas qu'il faille justement minorer cette nouveauté pour ceux qui copient, la nouveauté du sceau comme mode de validation des actes épiscopaux et comtaux aurait suscité la méfiance des scribes. Alors, si cette idée peut être retenue pour la main A du cartulaire, qui a été formée, on le voit par l'étude de son écriture, dans la première moitié du XIe siècle, voire pour la main B, elle ne peut l'être toutefois pour les cartularistes ultérieurs, ceux du XIIe siècle. En outre, on peut aussi remarquer que la nouveauté de la devise chirographaire n'a pas été, quant à elle, un obstacle à sa reproduction dans le codex. Donc j'écarte également cette explication. Enfin, pour des espaces plus septentrionaux et pour des cartulaires essentiellement de la fin du XIIe siècle et du XIIIe siècle, il a été suggéré que l'annonce du sceau dans l'escatocolle, intégrée à un formulaire, rendrait peut-être inutile son dessin en copie. Toutefois, ce qu'il faut noter, c'est que les croix sont très souvent annoncées, voire presque systématiquement annoncées dans les chartes et sont reproduites dans le cartulaire de façon presque systématique avec leur légende. Par ailleurs, et à l'inverse, les sceaux non annoncés dans l'escatocolle ne sont pas toujours dessinés en copie. Et tel est le cas pour la charte émanée de l'archevêque de Tours, Raoul, en 1104, donc transférée à la fois dans le cartulaire et sur la pancarte, et elle a été transférée donc à chaque fois sans dessin de son sceau. Puis si je reprends donc l'exemple de Saint-Maur-sur-Loire, eh bien ce cartulaire de Saint-Maur-sur-Loire démontre aussi que l'annonce du sceau n'éclaire pas toujours l'absence de son dessin en copie. On a dans ce cartulaire 5 reproductions de sceaux qui sont réalisées dans les premiers folios du codex à la suite d'actes dont la copie est imputable pour les 4 premiers à un même scribe. Donc je vais rester donc sur ces transcriptions dues à ce scribe. Ce scribe est à l'œuvre vraisemblablement vers 1130. Et ces transcriptions, pourvues de leurs dessins de sceaux, se suivent dans le recueil. Elles se suivent sans respect pour l'ordre chronologique. On a tout d'abord 2 chartes des comtes d'Anjou, alors Foulque 5, puis Foulque 4 d'Anjou, des chartes qui sont datées de 1124 et 1090, puis 2 autres des évêques de Poitiers, Guillaume Gilbert et Pierre II, datées respectivement de 1121 et 1105. Les 2 premières ne comportent pas d'annonce de sceaux. Les 2 dernières en ont une. Et lors de la transcription, eh bien le cartulariste, la même main, a traité de la même façon des documents dont l'escatocolle indique pour les uns le sceau, pour les autres le passe sous silence. Donc l'annonce de sceau n'est pas, l'absence ou la présence d'annonce de sceau n'est pas selon moi une explication suffisante. Alors ces 4 tentatives d'explication ne sont guère satisfaisantes. Et il convient de se tourner à nouveau donc vers le dossier de Saint-Aubin d'Angers, qui est un dossier extrêmement maigre, mais qui permet en fait d'apporter un éclairage nouveau. Donc dans le cartulaire, on trouve 5 dessins de sceaux, 4 dans le dossier consacré aux actes royaux, et ce sont des dessins qui sont l'œuvre de la main A, donc du cartulariste lui-même. Je le vois donc à la façon dont il écrit, dont il trace certaines lettres, et un qui se trouve donc dans le dossier consacré au prieuré de Prunier, dont il a déjà été question. Dans tous les cas, il s'agit de sceaux plaqués, apposés sur des diplômes carolingiens des 8e et 9e siècles. Alors, leur reproduction entraîne une simplification, et c'est visible, considérable de leur aspect. Une simplification considérable de leur aspect, et puis également, donc, on a affaire à des dessins très standardisés. Dans le cartulaire, ils sont à peu près tous de 5 à 6 interlignes. Ils sont formés donc d'un disque limité par un double cercle, Et ces dessins donc possèdent, on le voit en leur centre, un losange un petit peu aux allures d'étoiles qui constitue, selon moi, un substitut hein, de la figure royale. Mais bon, je peux me tromper. Et sur leur pourtour supérieur, alors moi j'ai appris des termes de vocabulaire pendant ce colloque, donc ce que vous appelez une croisette, moi ce que j'ai appelé avant une simple croix, donc maintenant je vais faire savante et je vais parler de croisette. Mais malgré tout, il faut noter que ces croix, croisettes, n'ont pas tout à fait exactement la même forme. Celle-ci me semble être un petit peu différente de celle-ci. Alors. Et donc, ces croix qui sont encadrées par un chapelet de ronds pourvu des points en leur centre pour les diplômes de 769 et de 808. Leur légende est identique pour les actes de 769, 808 et 851, légèrement différente pour le précepte de 849. Par ailleurs, donc, il y a des erreurs dans la légende, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point. Donc, l'identité des dessins, en fait, n'est qu'apparente. Quand on regarde de plus près, on constate que l'initiale de Carolus est soit un K, soit un C. On voit que le E de Rex est soit une capitale romaine, soit une onciale. Et puis on constate également que faute de place, Gracia a été abrégée une fois. Bon, voilà. Alors, sans imiter à toute force son modèle, on a l'impression que le scribe a essayé simplement de rendre compte de l'existence du sceau sur le parchemin. Et la main B, en fait, a fait de même avec des dessins un petit peu différents, donc dans le chapitre consacré au prieuré de Prunier et également sur la pancarte. Je vous rappelle que c'est exactement le même scribe qui a écrit donc ces documents. Alors que le cartulaire présente de nos jours 5 dessins de sceaux au bas de 5 copies intégrales ou partielles des diplômes carolingiens, on n'a aucun sceau épiscopal du XIe siècle et aucun sceau abbatial, aucun sceau comtal également. Or, on aurait pu penser, que les reproductions sigillaires aurait pu être un outil de repérage visuel utile pour mettre en évidence les actes d'autorité, certains d'entre eux en tout cas. Puis en outre, dessiner les sceaux utilisés par exemple par les abbés à partir du XIIe siècle aurait pu être aussi un moyen de dresser la généalogie des abbés albiniens ou de créer, par exemple s'il y avait remploi de la matrice, ou si on avait des matrices assez similaires, une continuité institutionnelle par ce biais. Ces reproductions, représentations, auraient pu devenir en fait un instrument pour entretenir la mémoire institutionnelle et puis pour célébrer également l'abbaye. Il n'en a rien été. Et si les moines adoptent effectivement une position sélective à l'égard des sceaux, eh bien elles jouent en faveur des actes royaux traditionnellement scellés. Alors, ces observations ainsi que la connaissance du travail de transcription mené par les scribes albiniens conduisent à formuler une hypothèse. À Saint-Aubin d'Angers, les scribes ne reproduiraient en copie que les éléments graphiques, ce qui est tracé sur le parchemin avec de l'encre. Et donc le sceau plaqué ou appendu serait pensé comme extérieur à la carta. Celle-ci est un parchemin, support d'une trace écrite, une notice ou une charte, associé à des signes graphiques tracés à l'aide d'une plume ou d'un calame avec de l'encre. Et ces signes graphiques sont variés, mais ils résultent tous d'un travail du copiste sur la peau. Cette distinction entre carta et sigillum, les médiévaux la posaient clairement au XIe et XIIe siècle, puisque l'établissement de la charte relevait d'un scribe, sans doute contrôlé à Saint-Aubin au XIe siècle, peut-être par l'écolâtre, on n'a qu'une mention d'écolâtre, au XIIe siècle, assurément par l'Armarius, et ces derniers, écolâtre ou Armarius, étaient effectivement responsables de la position des signes de validation tracés sur la peau, comme on le voit dans des chartes ou des notices très narratives qui nous montrent ces individus aller vers une résidence fortifiée pour faire apposer une croix de validation par une personne qui n'a pas pu se rendre à l'abbaye au moment donc du rituel de validation. Une femme enceinte, on a un cas d'une femme enceinte qui ne peut pas se déplacer, eh bien on va la trouver donc dans sa demeure pour qu'elle puisse tracer la croix de validation ou des personnes qui n'étaient pas là à ce moment-là. Et donc, cet écolâtre ou cet Armarius ne semblait pas détenir le sceau. Alors, aucune information ne permet de savoir qui, en l'abbaye, le détenait et en usait. Ça, c'est un problème malgré tout. Par contre, d'autres fonds nous donnent certaines indications. On sait qu'en 1085, grâce à une charte de Foulque le Réchin pour l'abbaye Tourangelle de Marmoutier, on sait que c'est le chapelain du comte, Robert, qui détient le sceau et qui va se déplacer donc pour aller sceller un acte. Foulque le Réchin ne peut pas le faire, donc, et c'est Robert, donc chapelain comtal, qui détient le sceau. Donc il y a là peut-être un élément supplémentaire qui rendrait compte de l'absence de dessin de sceau réel dans le cartulaire. Alors, dans cette hypothèse d'une distinction entre la peau et la galette de cire, comment comprendre la présence de dessins de sceaux carolingiens dans le cartulaire de Saint-Aubin? Donc, les diplômes carolingiens transcrits au cartulaire auraient été conservés en copie au moment de l'élaboration du recueil. Et donc, l'opposition réelle entre le parchemin, support de l'écriture, et la cire, support de l'empreinte, et de l'imago impressa, en quelque sorte, s'effacerait alors pour le cartulariste, pour le copiste. Et je voudrais revenir justement à ce dossier concernant également la pancarte de Prunier. En 1098, lorsque le diplôme carolingien daté de 769 est apporté comme preuve dans le plaid, eh bien, les opposants à Saint-Aubin, qui sont les moines de Saint-Nicolas d'Angers, critiquent cet acte, le dénoncent car il n'est pas scellé. Et ils le disent très clairement, tout à fait explicitement. Alors, il faut sans doute comprendre qu'aucune galette de cire n'est observable à ce moment-là sur le parchemin apporté par les moines de Saint-Aubin. Et la copie, puisqu'ils ont vraisemblablement apporté une copie figurée, ne présente qu'un dessin sigillaire, donc un signe graphique. Cette hypothèse, sans doute très fragile, deux pièces d'archives de Saint-Martin de Tours, l'accréditent quelque peu, ou du moins l'étaient. Il s'agit des copies d'un diplôme de Louis Le Bègue de 876, des copies qui ont été réalisées au Xe siècle par la même main. Elles sont dotées, chacune, d'une invocation symbolique, d'un monogramme, d'une ruche de notaire et d'un dessin de sceau qui est décrit ainsi, un dessin donc formé de deux circonférences concentriques, mais sans légende. Ces dessins schématiques peuvent être rapprochés par ailleurs des doubles cercles légendés, renvoyant à des sceaux portés sur des diplômes de Charles le Chauve pour l'église cathédrale Saint-Maurice d'Angers et connus par des copies modernes. Toutes ces reproductions, en fait, témoigneraient de codes graphiques communs adoptés par les grands scriptoria ligériens et des scriptoria qui sont en contact tout au long du Xe, du XIe et du XIIe siècle. Donc on aurait une circulation des conventions graphiques qui auraient été facilitées par les liens humains et institutionnels qui existaient assurément entre Saint-Martin de Tours, Saint-Maurice d'Angers et Saint-Aubin d'Angers. Alors je voudrais par ailleurs vous montrer des dessins de croix. Là, il s'agit de croix de validation que l'on trouve dans un des cartulaires de Saint-Florent de Saumur. C'est un cartulaire de la seconde moitié du XIIe siècle, donc beaucoup plus tardif que celui de Saint-Aubin. Et ces dessins donc, de croix de validation avec leur légende, ces croix de validation avec leur légende sont entourées d'un cercle. Donc, ils prennent des allures de sceau de ce fait. Et puis, en dessous, j'ai fait un extrait, donc j'ai pris un extrait d'un document de Marmoutier qui est conservé donc aux archives départementales du Maine-et-Loire. Je ne sais plus exactement pour quel prieuré, je crois que c'est Domeré, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Et on le voit de la même manière, donc là il s'agit vraiment d'un original qui n'est absolument pas contestable, où l'on voit cette croix de validation avec sa légende qui entoure la croix et qui, au premier abord, fait penser effectivement à un sceau. Alors, bon, fait penser, non, mais qui prend en tout cas des allures de sceau. Alors, c'est intéressant de voir également qu'à Marmoutier, comme à Saint-Florent de Saumur, on a donc ces, des croix de validation hein, qui ont ces allures particulières. On ne trouve pas du tout à Saint-Aubin ces mêmes dessins. Alors, pour conclure, dans le cartulaire de Saint-Aubin, les rares reproductions de sceaux seraient celles de dessins présents sur des exemplariats, hein, des copies de diplômes carolingiens, ou des dessins effectués par les mains A et B dans le recueil pour donner en fait de ces actes d'autorité une image conforme aux règles de la diplomatie carolingienne. Et transcrire, ce serait pour les scribes seulement transférer une trace écrite d'un support vers un autre, voilà, simplement cela. Et ne pas reproduire le sceau, qu'il soit plaqué ou qu'il soit appendu, parce qu'au début, je m'étais dit, il y a peut-être une distinction qui est faite entre les sceaux plaqués et les sceaux appendus, mais non. Ne pas reproduire les sceaux, bien résulterait d'un choix mûrement réfléchi par les deux premiers cartularistes, tout au moins, non d'une négligence, non d'un manque d'aptitude graphique, d'une tendance à la paresse ou d'indifférence. Et ce choix traduirait en fait aussi le regard que les scribes portent sur l'acte scellé, l'association en fait de deux objets distincts, le parchemin et l'empreinte sigillaire. Alors néanmoins, l'hypothèse énoncée pour le cartulaire de Saint-Aubin d'Angers, confectionné à la charnière des XIe et XIIe siècles, ne peut pas être généralisée et ne vaut que pour ce cartulaire. Et en fait, pour chaque cartulaire, pour chaque intervenant aussi dans un recueil de transcription, ce sont des ouvrages à plusieurs mains, bien des analyses fines doivent être conduites. Donc le chantier est en partie ouvert. Voilà. Merci beaucoup.